Gyalpo Rinpoche, qui va nous expliquer la signification essentielle de la prise de refuge pour toute personne désireuse de s'engager dans la voie du bouddhisme.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Sagesse Bouddhiste que nous consacrons aujourd'hui à la prise de refuge, cette cérémonie qui constitue l'entrée solennelle dans la communauté de ceux qui suivent l'enseignement du Bouddha. Nous nous en remettons ainsi à ce que l'on appelle les trois joyaux, le Bouddha, son enseignement, le Dharma, et enfin la Sangha, la communauté, afin de nous libérer de la souffrance. Alors quelle est la nécessité plus précisément de cet engagement? En qui prend-on refuge et pourquoi? De quelle manière se déroule cette cérémonie et quels en sont les préceptes qui en découlent? J'ai le grand plaisir d'accueillir, pour en parler avec nous, le Vénérable Dakpo Rinpoche. Vénérable Dakpo Rinpoche, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes né au Tibet, vous êtes arrivé en France en 1960, vous êtes d'ailleurs le premier lama tibétain à venir dans notre pays. Vous avez enseigné au Langzhou et vous avez fondé la congrégation bouddhique Ganden Ling et l'Institut Gepel, avenue Neu-les-Sabons. Alors, je précise aussi que vous êtes un proche de Sa Sainteté le Dalai Lama et que c'est vous qui l'accueillez, entre autres, lorsqu'il se rend dans notre pays. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Dakpo Rinpoche. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie cette expression « prendre refuge » ?
Ça consiste à se mettre sous la protection des trois joyaux. Donc la démarche, c'est de leur faire une totale confiance. Et donc, dans la prise de refuge, le plus important, c'est l'état d'esprit. Mais malgré tout, on va l'officialiser en répétant des formules, en prenant à témoin, par exemple, le maître qui va donner les refuges, mais ça pourrait être également un compagnon plus avancé sur la voie que soi-même.
Alors, pour quelles raisons prend-on refuge, Dakpo Rinpoche?
La première raison, c'est que l'on éprouve des difficultés dans la vie. Parfois, l'on souffre, on a peur, ça arrive à tout le monde. Et en plus, puisque les bouddhistes admettent la réincarnation, il y a également toutes les craintes que l'on pourra avoir vis-à-vis de renaissances défavorables dans l'avenir. Et quand on pense à toutes ces souffrances, à tous ces inconvénients de la vie, on ressent le besoin de trouver une protection. C'est vraiment la première raison. Mais également, on peut être motivé par le désir de voir les autres être protégés. Donc il y aura également la compassion.
Alors, vous venez de nous parler de protection et on dit justement que lorsque l'on prend refuge, on se place sous une double protection temporaire et définitive. Qu'est-ce que cela signifie plus concrètement ?
Sur le plan temporaire, c'est par rapport aux difficultés de notre vie actuelle ou d'éventuelles renaissances futures, notamment au cas où on aurait à se retrouver dans des états dits infortunés. Sur le plan ultime maintenant, c'est par rapport à tous les inconvénients en général du samsara, mais également les inconvénients de la seule libération personnel.
Alors, lorsque l'on prend refuge, on prend refuge dans les trois joyaux, donc le Bouddha, le Dharma, son enseignement, et la Sangha, la communauté. En fait, on pourrait dire que ce sont les trois piliers de cette prise de refuge.
C'est exact. Et c'est un petit peu comme dans le cas d'une personne qui se rendrait compte qu'elle est tombée malade. Elle a besoin d'un médecin, mais il lui faut également des médicaments. Et en général, il vaut mieux également qu'il y ait des infirmiers qui puissent donner un coup de main. Donc, de la même manière, pour pouvoir être protégé contre les inconvénients du samsara, on a besoin de trois types de protection, d'où les trois joyaux.
Alors, on nomme ces trois joyaux aussi les trois rares et sublimes, c'est une très belle expression, mais en quoi ont-ils la capacité à nous protéger que nous n'avons même pas nous-mêmes finalement ?
Quand on parle de De la capacité des trois joyaux, on évoque surtout le joyau du Bouddha. Et il se trouve que celui que l'on appelle Bouddha est quelqu'un qui a lui-même rejeté tous les défauts et imperfections et qui a parachevé toutes les qualités. Ça pourrait être vrai pour, cette définition est valable pour n'importe qui devenant Bouddha. Et étant donné qu'un Bouddha a accompli un tel travail sur lui-même, il n'a plus rien à craindre. Il est donc désormais hors d'atteinte lui-même de toutes les peurs, de toutes les craintes. En outre, il est particulièrement habile en l'art de venir en aide à autrui pour les protéger à leur tour contre toutes les craintes et peurs du samsara. Et ce qui est également très important, c'est qu'un Bouddha a toute compassion vis-à-vis de tous les êtres, un peu comme une mère très aimante vis-à-vis de son petit enfant. Et c'est de fait de toutes ces qualités que le Bouddha a tout pouvoir pour protéger les êtres.
Alors nous venons d'évoquer le premier de ces trois joyaux, le Bouddha. Parlons maintenant du second joyau, donc le Dharma, son enseignement, si vous le voulez bien.
Le Bouddha est avant tout un guide. Il va nous montrer la voie à suivre. Quelles que soient nos activités, nous avons besoin d'un instructeur. Même pour la cuisine, il faut apprendre. Donc c'est de ce point de vue-là que le joyau du Bouddha est indispensable. Lorsque nous chercherions à être protégés contre les souffrances du samsara et des états infortunés, il ne peut pas y avoir de meilleur instructeur, selon les bouddhistes bien sûr, que le joyau du Bouddha. Mais il ne suffit pas que quelqu'un nous indique ce qu'il nous faut faire. Nous avons également besoin d'un refuge à proprement parler. Et ça va être le deuxième joyau, le joyau du Dharma. C'est-à-dire que si nous mettons en application les enseignements du Bouddha, c'est cela et cela seul qui nous permettra de nous mettre à l'abri de toutes les souffrances que nous craignons tant. L'enseignement, lui, tout seul, ne pourrait pas nous protéger. C'est notre application qui aura cet effet. Mais lorsque nous nous engagerions dans une telle démarche, nous allons avoir besoin de modèles, d'exemples, de soutien. Et ça, c'est le rôle du troisième joyau, le joyau des sanghas. C'est-à-dire les pratiquants plus avancés que nous, qui ont déjà obtenu des réalisations, qui ont développé les qualités et qui nous montrent que c'est jouable.
Effectivement, ce troisième joyau pardon, de la Sangha, c'est très très important lorsque l'on prend refuge.
S'il n'y avait pas la communauté, les Sanghas, nous n'aurions pas de modèle sous les yeux. Et même si nous avions envie de pratiquer, nous serions parfois un petit peu perdus, un peu décontenancés. Donc là, c'est extrêmement important.
Alors, la cérémonie de prise de refuge est primordiale. Comment est-ce qu'elle se déroule plus concrètement, Vénérable Dakpo Rinpoche ?
En principe, il y a plusieurs manières de s'y prendre. Et en fait, le point le plus important, c'est quand même de faire apparaître en soi l'état d'esprit approprié, ce qui suppose d'avoir réuni les causes d'une prise de refuge valide. D'une part, de la crainte vis-à-vis des souffrances, deuxièmement, une véritable confiance, une totale confiance en les trois joyaux, et troisièmement, éventuellement, de la compassion à l'égard des autres êtres. Sur la base de ces deux ou trois causes, la prise de refuge apparaît dans l'esprit, et elle va être ensuite officialisée au travers de la cérémonie. La cérémonie est importante, mais c'est l'état d'esprit qui est primordial. On peut procéder à des cérémonies plus ou moins élaborées, bien sûr, mais simplement prononcer des mots s'il n'y a pas l'état d'esprit, ça ne voudrait pas dire grand-chose.
Par exemple, lorsque vous assistez à une prise de refuge, comment est-ce que ça se passe ?
Si l'on a affaire à des personnes complètement nouvelles, il faut de toute manière qu'il y ait une représentation du Bouddha Shakyamuni en tant que symbole. De préférence, c'est bien également d'avoir un sutra de la sagesse. On va avoir disposé un certain nombre d'offrandes, que ce soit des fleurs, de la nourriture, etc. Et le maître qui préside la cérémonie va d'abord faire un court enseignement de manière à ce que les nouveaux postulants puissent puisse établir en eux les causes de la prise de refuge. Donc le maître va souligner les inconvénients du samsara en leur rappelant les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans la vie et pour lesquelles par eux-mêmes ils ne trouvent pas actuellement de solution. Et le maître va donc leur montrer que s'ils le désirent, ils pourraient s'en remettre aux trois joyaux, au Bouddha en tant que guide, au Dharma en tant que refuge véritable, au Sangha en tant que compagnons qui vont aider dans toute la démarche spirituelle. Après quoi, le maître va faire répéter après lui un certain nombre de formules. Il va leur expliquer l'éthique à observer à partir de là, et après quoi il faudrait procéder à une dédicace pour consolider tous les mérites.
Alors, lorsque l'on prend refuge, on s'engage sur cette voie vers l'éveil, et il y a des préceptes qui en découlent. Quels sont-ils, Dako Rinpoche ?
Il y a un certain nombre de préceptes par rapport à ce qu'il faudrait éviter de faire, par rapport à ce qui serait bien d'accomplir. Pour donner quelques exemples, il y a un certain nombre de choses qu'il vaudrait mieux s'abstenir. Pour quelqu'un qui a pris refuge en le Bouddha, par exemple, il devrait s'abstenir dorénavant de s'en remettre totalement à des personnages qui n'auraient pas atteint l'état de Bouddha, donc par exemple à des déités mondaines. Il peut leur demander un coup de main, mais pas un refuge ultime. Vis-à-vis du joyau du Dharma, le principe de base est que désormais, il faut s'abstenir de nuire à quelque être que ce soit, un animal, être humain, etc. Et vis-à-vis du joyau du Sangha, cela implique que désormais, sur le plan spirituel, il ne faudrait pas s'en remettre à des personnes qui ne seraient pas très fiables, qui risqueraient de susciter en nous plutôt des mauvaises pensées qui développeraient nos défauts. Donc les personnes qui auraient une mauvaise influence, bien sûr que nous allons devoir les rencontrer dans le cadre de la vie, etc. Il ne s'agit pas de les rejeter, mais il ne faut pas leur accorder notre confiance du point de vue spirituel. Et en ce qui concerne maintenant ce qu'il serait bien de faire également, c'est qu'il faudrait manifester le plus grand respect vis-à-vis des représentants des trois joyaux, donc vis-à-vis du Bouddha, faire preuve de déférence vis-à-vis des statues, ne pas les transformer en lampes notamment. Vis-à-vis du joyau, ça veut dire également faire très attention à tout ce qui est écrit, ne pas les mettre par terre, ne pas s'asseoir dessus. Vis-à-vis du Sangha, n'importe qui portant des habits religieux, même si, quelle que soit son observance de l'éthique, il faut le respecter du fait même qu'il porte des habits religieux et qu'il représente la communauté monastique.
Alors, avant de se quitter, Dako Rinpoche, j'aimerais juste que l'on précise une petite chose. On parle des trois joyaux donc en qui on prend refuge, mais dans le bouddhisme tibétain, dans la branche Vajrayana à laquelle vous appartenez, on parle aussi des trois racines. Pardon. De quoi s'agit-il ? Vous pouvez nous dire un mot sur ces trois racines ?
En fait, ça revient au même, mais ça n'est pas incompatible. En fait, c'est complémentaire. On va alors parler du maître, de la déité tutélaire et des dakas, des dakini, des protecteurs, disons. En fait, il s'agit de montrer qu'à la source même de l'enseignement et de la pratique, le maître auquel on se confie ou encore le Bouddha que l'on invoque, les protecteurs dont on demande l'aide sont évidemment très importants. En fait, au Tibet, c'est le Mahayana qui a été établi avec les deux aspects, c'est-à-dire aussi bien la forme du Vajrayana que vous venez d'évoquer que le Paramitayana, le véhicule des perfections.
Très bien, merci beaucoup, Vénérable Dako Rinpoche, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
Pour terminer cette émission, voici quelques ouvrages que vous pouvez vous procurer. Tout d'abord, deux livres de Dako Rinpoche, publiés chez Claire Lumière. Prendre refuge, l'entrée dans le bouddhisme. Vous y retrouverez les principales réponses aux questions que vous vous posez concernant cette cérémonie, complétée par de nombreuses planches couleurs. Le vœu de Bodhisattva, toujours donc de Dako Rinpoche. Ce petit livre nous présente un exposé clair de la nature de ce vœu et de ses implications en nous expliquant entre autres ce qu'est un Bodhisattva, à quoi engage ce vœu et les préceptes qui en découlent. Nous vous conseillons enfin « Et si vous m'expliquez le bouddhisme » de Rengo Tulku Rinpoche, préfacé par Mathieu Ricard aux éditions du Nil. Adapté d'un des grands textes fondamentaux, ce livre nous permet d'une façon claire et simple de découvrir les grands principes de la voie contemplative et philosophique du bouddhisme. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique « Tous les programmes » et « Chemin de la foi ». Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle semaine. À dimanche prochain.